Alors nous lisons dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Il est écrit ceci: la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, c'est-à-dire à Babylone, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors nous connaissons à peu près l'histoire de Daniel, avec ses amis. On vient de lire le début. Ils ont été déportés à Babylone, alors qu'ils étaient des juifs, hein, de race noble et de famille royale. Les juifs ont perdu la guerre contre le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et on sait qu'autrefois, chaque pays, chaque nation avait ses dieux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas où les nations disent qu'ils ont des dieux. Non, aujourd'hui, les nations se battent pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, les États-Unis sont devenus comme des dieux. C'est la nation elle-même qui est devenue comme une sorte de dieu. C'était pas, ils n'ont pas de dieu officiel, c'est les nations d'aujourd'hui, sauf quelques exceptions. Et perdre la guerre ainsi, c'était comme si votre Dieu perdait aussi. Parce que le combat entre pays, c'est en quelque sorte le combat aussi entre dieux. Alors, mon enseignement d'aujourd'hui, c'est est-ce que les défaites, souffrances et misères que nous pouvons soit vivre, soit voir, soit constater, doivent nous faire abandonner la foi? C'est là la question, la réponse, c'est non. Daniel et ses trois amis venaient de subir une grande honte. Non seulement ils venaient de perdre la guerre, mais ils étaient déportés, amenés captifs à Babylone. Les détails de l'histoire ne nous sont pas tous donnés. Mais probablement, peut-être certains parents étaient morts dans tous ces événements. Pourquoi je veux parler de tout ça ce matin? C'est que on a des enfants qu'on amène faire du sport. Et il y a une dame qui est tout le temps dévouée pour ses enfants. Dévouée pour ses enfants. Les amenant régulièrement au basket pour s'entraîner, pour jouer avec un de mes fils. La dame, ma femme l'a vue un jeudi, mais le vendredi, on apprend qu'elle est morte. Je ne pense même pas qu'elle avait plus de 45 ans. Alors, bien aimé, ça a été un choc pour moi. Parce que non seulement elle était normale, à part en apparence, elle était bien vivante. Mais nous avons pensé aux enfants. Déjà pour moi, un étranger, c'était un choc. Quelqu'un qui la voyait de l'extérieur. Mais pour ses enfants, ça devait être quoi? Alors, il n'y a pas que ça. On a dû nous faire signer des attestations pour demander aux autorités de laisser la famille de la maman garder les enfants. Pourquoi? Ils ont un père méchant. Un père mauvais qui se trouve en Charente-Maritime, mais qui vient de temps à autre. Mais même les enfants ne veulent pas aller avec leur père. Et quand je voyais la dévotion de la maman pour ses enfants, on se dit, mais comment c'est la bonne personne qui meurt? Et même si, bon, c'était que la bonne personne. Mais là, ce n'est pas qu'une bonne personne. C'est que ses enfants se reposaient complètement sur elle. Les enfants ne voulaient même pas de leur père. Quand on pense à tout ça, on dit déjà le choc de la mort. Deuxièmement, devoir vivre avec le papa. C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seule seconde pour faire cette attestation-là. Est-ce que ça aboutira? C'est Dieu seul qui le sait. Mais savoir la galère qui attend les enfants, qui d'eux-mêmes ne veulent pas aller chez leur père. On est déstabilisé quand on voit tout ça. On est choqué, on souffre. Mais est-ce que ça doit nous amener à abandonner la foi? Est-ce que ça doit nous amener à reculer? Non, c'est ça la réponse. Non. J'ai pris cet exemple de Daniel qui venait de subir un grand traumatisme. Avec la fierté d'un juif, c'est être près de Jérusalem. Être près de Jérusalem. Vous vous imaginez que pendant 2000 ans, ils ont dit l'année prochaine à Jérusalem. Pour eux, la fierté, c'est être à Jérusalem. Maintenant, devoir être déporté. Et comme je l'ai dit précédemment, nous ne connaissons pas tous les détails. Peut-être que le papa de Daniel a été tué pendant cette guerre. Peut-être que sa maman aussi a été tuée. Mais admettons qu'il soit vivant. Vous imaginez la détresse d'une maman voir son fils aller à Babylone. Peut-être que tu le reverras plus. Plus jamais. Donc Daniel aussi était en détresse. Il était aussi en détresse. Il était dans la souffrance. On se dit, mais les forces des ténèbres, c'est elles qui vont gagner. Et nous connaissons la fameuse prière de Daniel dans Daniel au chapitre 9, quand il dit à Dieu, c'est nous qui avons péché. C'est à cause de nos péchés que nous avons été livrés. Nous avons été livrés à cause de nos péchés. Pourquoi il y a la souffrance sur terre? C'est à cause des péchés. Mais est-ce que Daniel lui-même avait péché? Mais tel qu'on le voit, son comportement et ses amis, je ne pense pas que les quatre avaient péché. Mais puisqu'ils étaient dans une nation pécheresse, ils ont souffert des conséquences du péché, des péchés commis par cette nation. Nous sommes dans une terre qui pêche. Donc même si l'exemple que je viens de donner, l'enfant peut-être n'avait, les enfants, je pense surtout au dernier, n'a peut-être rien fait de mal, mais il va devoir souffrir des souffrances qu'on retrouve sur terre à cause du mal qu'il y a sur terre. Ça fait mal. Mais c'est ça la réalité. Le péché a entraîné la souffrance sur terre. Et si les souffrances que nous observons n'étaient pas, nous négligerons l'impact du péché. Nous négligerions la gravité du péché. Quelque part, les souffrances et les injustices et les contradictions, c'est une contradiction apparente, que ce soit la mère qui est dévouée pour ses enfants, qui ne vit que pour ses enfants, qui les encadre, qui les soutient. C'est une contradiction apparente que ce soit elle qui meurt et c'est le monsieur inutile, méchant qui va vivre. Je dis bien, c'est une contradiction apparente. Parce que si on se rapproche de Dieu, si on réfléchit avec Dieu, Dieu dit, il ne veut pas que le méchant meure pour qu'il ait le temps de se repentir. Donc, ce n'est plus une contradiction. Il y a des raisons que le Seigneur peut nous donner pour tout nous expliquer. Soyons-en sûrs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pendant qu'on est choqué, ça paraît comme des contradictions. Et Daniel vit ça aussi. Mais Daniel, malgré ces difficultés-là, nous observons qu'alors qu'il est avantagé par le monde, il est avantagé parce qu'il est dans le service, au service du roi. Il est avantagé parce qu'on l'autorise à manger les mêmes repas que le roi. Il n'a pas accepté cet avantage. Il n'a pas accepté ce privilège-là. Parce que ce privilège l'éloignait de son Dieu. Frère, je veux dire que on a cru une fois pour toutes. Notre frère Paul dit quelque part dans les épîtres à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru. » Une fois pour toutes, on a cru. Et toutes ces contradictions ne doivent pas altérer notre foi qu'on a au Dieu créateur. Ces contradictions et ces souffrances manifestent notre faiblesse, manifestent les conséquences du péché. Mais Dieu reste Dieu. Il reste tout puissant. Je vois, j'ai voyagé après la chute de l'avion de Malaisien. Mais ce n'est pas la chute de cet avion qui m'a empêché de voyager. Mais pourtant, c'est atroce pour les familles qui ont vu leurs parents mourir dans cet avion. Mais on se dit, l'avion en général est un bon appareil. Et on y monte. Et ce n'est pas parce que ces souffrances, ces contradictions, les difficultés qu'on peut voir ou vivre sont là, que ça change le fait que Dieu est tout puissant, créateur, bon. Parce que le Seigneur a donné son Fils pour nous. Donc il est bon, il est amour. Il y a des choses à comprendre. Moi je ne veux pas trop m'élargir sur les explications. Je veux juste nous dire que ce n'est pas une raison pour abandonner la foi. Ce n'est pas une raison pour reculer toutes les souffrances et les difficultés qu'on peut, expérimenter. Ce n'est pas une raison pour reculer. Parce que Daniel a vécu une grosse difficulté, peut-être plus grande que celle que nous vivons. Déporté, peut-être des parents morts, amenés à l'étranger. Mais Daniel savait en qui il avait cru. Il savait que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Sa foi était véritable. Peut-être fallait-il cette épreuve pour bien constater que sa foi était réelle. Peut-être que ces chocs et ces souffrances que nous vivons ne servent-ils pas à enraciner notre foi pour dire non, je sais ce que j'ai fait comme choix. Tout ça, c'est des possibilités. Mais heureusement qu'il y a ces possibilités. Mais le plus important, c'est que Dieu existe. Il est bon et amour et tout-puissant. On le voit à travers sa création. La mort de cette maman-là me choque. Mais le soleil est toujours là. L'air est toujours là. La création est toujours là. Ça montre la grandeur de Dieu. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est de nous humilier et de demander la force de Dieu devant de tels événements. Demander que Dieu renouvelle notre foi. Et Daniel, cet événement l'a rendu encore plus proche de Dieu, l'a amené plus proche de Dieu. Daniel et les amis de Daniel, ils ont été encore plus proches de Dieu. Parce qu'il est écrit, lorsque nous sommes faibles, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Ces événements choquants ont tendance à susciter en nous un esprit d'orgueil et de rébellion. Il dit, ah, mais si Dieu existait, ah, pourtant je prie, pourtant ceci, pourtant cela. Et notre orgueil vient, mais notre orgueil, notre rébellion, bien-aimé, dites-moi, dans ces événements, est-ce que ça va ressusciter un mort? Est-ce que ça va changer le caractère de la personne qui est une source de tribulation pour nous? Notre orgueil, notre rébellion vis-à-vis de Dieu ne changera rien dans tout ça. Ça peut même parfois amplifier notre problème. Donc je commence par ces réflexions-là. Je commence maintenant à réfléchir. Donc pensons-nous que notre orgueil et notre rébellion vis-à-vis de Dieu, ça va changer notre situation. Comme le Seigneur a dit, est-ce que votre inquiétude peut rajouter une longueur à votre vie? Si c'était le cas, moi je dirais, bon, que faire puisque l'orgueil et la rébellion semblent porter. Mais je sais parfaitement que c'est faux. Daniel se serait fâché, il serait tombé dans l'orgueil, ça n'allait pas changer sa situation. Il serait toujours prisonnier à Babylone. Donc même si, frères et sœurs, nous n'avons pas toujours l'explication qui justifie notre souffrance, notre tribulation, ou ce que nous voyons, parce que c'est Aujourd'hui, je parle de quelque chose que j'ai vu. Ce n'est pas quelque chose que je vis, mais que j'ai vu. Mais que ça fait mal parce que je suis un être humain. Ça fait souffrir. Même si nous n'avons pas trouvé d'explication, ne sombrons pas dans l'orgueil et la rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que d'une manière raisonnable, ça ne nous avance en rien. Ça ne nous avance en rien. Au contraire, ça va multiplier encore notre souffrance. L'aimé du roi, c'est quoi dans notre cas? L'aimé qu'on a proposé à Daniel pour le mettre à l'aise et ses amis. Dans notre cas, c'est l'orgueil et la rébellion. Le monde va venir te dire, ah mais non, c'est pas normal. Et en plus, on va dire que Dieu existe dans ces conditions. C'est la maman, je m'imagine la tête de tous les témoins de cet événement, tous les parents qui amènent les enfants au basket. Mais c'est elle qui s'occupait des enfants. Et avec ça, on va dire que Dieu existe. Mais une autre question que j'ai l'habitude de poser, c'est que mais quand elle était vivante, est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés pour dire, mais tiens, Dieu vraiment existe? Parce qu'une maman dévouée à ses enfants, qui ne cherche pas peut-être un copain, mais dévouée à ses enfants. Personne n'a loué Dieu pour ça. Mais là qu'elle va mourir, c'est là qu'on commence à incriminer Dieu. Ça, c'est l'orgueil et la rébellion. C'est l'inconséquence. Et c'est aussi l'injustice. Parce que les gens ne sont pas justes. Quand les choses vont bien, ils ne citent pas Dieu. Quand ça va mal, c'est là qu'ils attaquent Dieu. Donc c'est de l'injustice. Donc, peu importe qu'on n'ait pas toutes les explications, ne sombrons pas dans l'orgueil et la rébellion vis-à-vis de Dieu. Humilions-nous. Et Dieu peut nous donner quelques explications. Je vais nous en donner quelques-unes, toujours comme ça en parlant. Nous, les enfants de Dieu, nous ne comptons pas sur l'arrangement de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Que notre société subitement se transforme en une société où il n'y a pas le deuil, il n'y a pas le malheur, il n'y a plus la souffrance, il n'y a plus l'injustice. Non, la Bible nous dit que cette terre sera détruite à cause du mal, comme le fut Sodome et Gomorre, et comme le fut toute la terre du temps de Noé, ça a été détruit, ça a été englouti dans l'eau, dans les eaux. Donc la Bible nous montre, nous prévient que la terre ne s'arrangera pas. Dans Matthieu 24, on nous dit que l'iniquité progressera toujours, jusqu'à la fin. Et comme l'iniquité va progresser, le mal va progresser, les injustices vont progresser. Et ne subiront ces injustices, les conséquences de ces péchés, de ces injustices, pas que les mauvais. Nous subirons ça parce que nous faisons partie de la terre. Aujourd'hui, que la France entre en guerre avec un autre pays, même si ce n'est pas nous qui avons décidé la guerre, nous allons la subir. Parce que nous sommes sur cette terre. Et donc, nous, en tant que chrétiens, notre expérience doit être globale. Elle ne doit pas être que locale et ponctuelle. Elle doit être totale, globale. On sait qu'un jour, tout ceci finira. Dieu jugera les cieux et la terre et redressera les choses une fois pour toutes. Voilà notre attente. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour le maintenant. Aujourd'hui, nous prions pour les enfants de cette dame-là. Mais entre-temps, nous savons qu'il y a un jour, Dieu jugera la terre et les cieux et la terre. Il jugera les humains et il fera une terre nouvelle, un ciel nouveau, où il n'y aura plus ni cri, ni deuil. C'est écrit dans Apocalypse 21:4. Il essuiera les larmes de nos yeux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, en entrant au ciel, il faudra qu'on nous efface le souvenir de la terre. Parce que la terre nous a marqués à cause de beaucoup de souffrances. Et Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus désormais de cris ni de pleurs. Voilà notre espérance finale. Et dans ces événements, dans ces tribulations que nous pouvons voir et souffrir, dans ces injustices qui semblent consacrer les apôtres du mal, nous devons avoir cette espérance, cette foi, qu'un jour Dieu réglera le compte des apôtres du mal. Il réglera le compte des injustices et il rétablira toutes choses. Et nous devons nous dire, il faut qu'on parle de Dieu à tous, afin que tous sachent cela. Que Dieu un jour réglera le compte de tout ça. Il y a le péché sur la terre. Mais Dieu est bon. Mais il ne pouvait pas Dieu. Dieu, par les souffrances de son fils, nous montre que même lui, Dieu n'a pas échappé aux souffrances. Le péché est si grave que même Dieu n'a pas échappé à ça. Aux souffrances plutôt. Conséquence du péché. Puisque son propre fils en a pâti. Et lui-même, Dieu, sur son trône, le Père, il souffre. Quand il voit les hommes souffrir, il souffre. Donc même lui-même subit les conséquences du mal. Si Dieu lui-même souffre, qui ne va pas souffrir? Mais un jour, tout cela cessera. Deuxième élément de réflexion qui doit nous consoler. Le même Daniel dit dans Daniel 2, chapitre 21, que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, le maître des temps et des circonstances. Pour nous, c'est un choc. On a vu la dame jeudi et puis vendredi, on apprend qu'elle est morte. Mais Dieu lui savait. Puisque Dieu savait, donc les choses sont sous contrôle. Alors, vous pouvez être le numéro 2 dans une entreprise. Et le numéro 3 vient avec une liste de choses, dit bon, je vais acheter tout ceci. Je dis, bon, tout ça, mais c'est cher et puis on n'a pas besoin de ceci ou cela. Quand le numéro 3 va vous dire, non mais j'ai déjà vu ça avec le numéro 1. Vous vous dites, ah bon, il n'y a pas de problème. Puisque le numéro 1 est au courant, moi le numéro 2, c'est pas mon problème. Et nous, quand nous voyons toutes ces souffrances, soit nous arriver, soit les observer, puisque le numéro 1, et lui, il est au courant, et c'est lui le maître des temps et des circonstances, ne nous comportons pas, parce que parfois notre colère vient de quoi? Vient du fait qu'on se dit, mais Dieu n'a pas vu ça. Ou bien, on n'a pas toujours que la colère, on a parfois aussi le découragement de sentir comme si les forces des ténèbres seraient plus fortes. Et que ce verset de Daniel 2:21 nous rappelle que rien ne surprend Dieu parce qu'il sait les choses à l'avance. Donc que cette mère soit morte a été prévue par Dieu. Ça doit nous consoler. Parce que c'est le Dieu d'amour. Si le Dieu d'amour a prévu que cette mère morte l'a vue, a laissé faire, c'est que le Dieu d'amour, à travers cet événement, veut faire quelque chose de Dieu. Puisqu'il est le Dieu d'amour. Il maîtrise le temps et les circonstances. Nous, on est surpris, mais lui n'est pas surpris. Et donc, forcément, cet événement est un bon événement. Parce que c'est le Dieu d'amour qui l'a vu à l'avance et a laissé faire. Que le découragement que le diable veut nous imposer en nous faisant croire que Dieu n'a pas vu. Il a laissé le mal triompher sur le bien. Que ce découragement ne nous attrape pas. Au contraire, disons-nous, pour être consolés, que Dieu a vu tout ça se préparer et se faire. Et le Dieu d'amour a laissé faire, alors qu'il est Dieu d'amour, alors qu'il est tout puissant, un autre attribut de Dieu qualificatif, forcément, la situation est sous contrôle. Frère, la situation est sous contrôle. Même si c'est une situation de mal, même s'il y a des humains mauvais responsables dans cette affaire, la situation est sous contrôle. Le maître des temps et des circonstances a vu ça. Que cela nous fortifie. Que cela nous donne la paix de savoir que c'est sous contrôle. Au contraire, que cela nous rapproche de Dieu, puisqu'on sait qu'il est sous contrôle, lui parler par rapport à la situation, voir clair avec lui, arranger avec lui, parce que c'est sous contrôle, que ce soit notre consolation. Première consolation, Dieu connaît tout. Et plutôt, Dieu jugera, Dieu finira le problème de la souffrance une fois pour toutes, un jour. Deuxième consolation, il connaît tout, il contrôle la situation. Et il est amour. Et donc, s'il contrôle la situation, c'est que ça finira bien pour ceux qui sont avec lui. C'est pourquoi un autre passage nous dit, Romains 8, 28, « Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Cette situation négative, au début pour moi, va bien finir. Elle va bien finir parce que c'est au contrôle du Dieu Tout-Puissant. Et comme ça concourt pour mon bien, donc ça va bien finir. Et ça, c'est une consolation. On se dit, ça va bien finir. Nous, on prie Dieu et on s'attend à ce que ça finisse bien parce qu'il est le Dieu d'amour et qu'il contrôle tout. Le découragement vient parce qu'on se dit, on a l'impression que Dieu n'a rien fait ou bien n'a pas pu faire. Non, Dieu est tout puissant. Tout ça est géré. C'est géré, c'est sous contrôle. Quand on vient te poser le problème, non, mais on a vu déjà avec le numéro 1. Ah bon, d'accord, c'est bon. Comme le numéro 1, il est au courant. C'est sous contrôle. Il n'y aura pas de problème. C'est la même chose. C'est sous contrôle. Même si ça ne donne pas cette impression. Même si on se dit, mais non, mais ça n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est cet homme-là qui a tué, c'est cet homme qui a fait telle chose. Oui, mais tout ça est sous contrôle. Il est dit dans la Bible, hein, il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu soit au courant. Donc sans qu'en quelque sorte, il accepte. Si Dieu refuse que le moineau tombe, ça ne va pas, il ne va pas tomber. Un moineau, Dieu s'en occupe de ça. Et les humains. Vous savez, quand Jonas a voulu fuir la mission, sa raison c'était quoi? Je savais que Dieu allait les sauver. Mais Dieu dit, mais toi, tu t'inquiètes pour un arbre que j'ai sorti et que j'ai tué en un jour. Mais l'arbre aussi est sorti en un jour. Mais je l'ai tué en un instant. Tu t'inquiètes juste pour un arbre parce que ça te couvrait la tête. Et moi, je vais laisser Ninive, une ville remplie d'humains qui ne savent pas reconnaître leur gauche de leur droite. Je vais les laisser mourir comme ça. Tu as un problème. Moi, j'ai créé l'homme à mon image. Dieu aime l'homme. Dieu tient l'homme. Il aime l'homme. Donc, à cause de ça, soyons tranquilles. Soyons en paix. Ces situations-là qu'on a vues, ou qu'on a vécues, ou qu'on vit, ou qu'on a... qu'on est en train de voir, vont bien finir pour nous. Parce que Dieu contrôle tout. Il est au contrôle. Et on se souvient des messieurs, des apôtres du Seigneur, des disciples du Seigneur, qui s'en allaient sur le chemin de Maüs. Jésus leur paraît et dit, mais de quoi discutez-vous? Mais vous n'êtes pas au courant? Jésus qui était puissant en acte. J'aime beaucoup leur phrase. Il était puissant en acte et en parole. Beaucoup sont puissants en parole. Lui, il était puissant en parole et en acte. Et on l'a attrapé. On l'a crucifié, les mots. Nous, nous pensions que c'est lui qui était notre roi, qui était venu libérer Israël. Mais voilà de cela 3 jours qu'il est mort. Jésus a dit, homme lent à croire. Ce qui a été écrit par les prophètes. Vous êtes lent à croire. Bien-aimés, ne soyons pas lents à croire. Dieu est tout-puissant. Il est le maître des circonstances. Tout est sous contrôle. Ne nous laissons pas attraper par le découragement, la rébellion et l'incrédulité. Humilions-nous et prions le Seigneur. On verra la bonne fin des choses. Vous savez, nous pleurons pour les situations qu'on voit et qu'on vit. Mais imaginez que les apôtres avaient laissé leur famille. Vous savez comment nos familles nous critiquent? Parce que juste qu'on vient à l'église régulièrement, dans une salle. Mais eux, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus dans les chemins. La famille, ils sont devenus fous. Vous imaginez? Comme le monsieur dit, mais nous pensions que celui qui libérerait Israël. Vous avez déjà vu des gens pleurer le jour de la finale d'un match, de la finale d'une coupe, dans un... Parce qu'ils se disent, mais quand le monsieur paye son billet,
Il ne paye pas pour venir voir la défaite. Il paye pour venir voir la victoire de son équipe. Et parfois, on a une idole, ils ont une idole, un joueur qu'ils aiment beaucoup. Et oui, quand ce joueur-là échoue, on pleure. Et là, eux, ils avaient tout abandonné pour suivre un homme considérant que lui, le roi d'Israël. C'est fini, les choses sont rétablies avec lui. Vous imaginez le choc qu'ils ont eu de voir Jésus-Christ crucifié. Beaucoup de gens aiment toujours dire « Moi, j'aimerais bien être à la place des apôtres, toucher Jésus, le voir. » Mais je peux vous dire que pour moi, je ne dis pas ça. Parce que le choc qu'ils ont connu de voir Jésus crucifié est un choc très fort. Vous vous souvenez quand Goliath a été tué par David le Philistin, on fuit. C'est un choc. Notre champion qui meurt comme ça. Quel choc de voir Jésus crucifié, de l'attraper, il ne peut rien faire. Pourtant, il y a eu plusieurs tentatives de tuer Jésus avant. Mais Jésus passait déjà toujours entre les gens. On ne lui faisait rien du tout. Jésus a même fouetté les gens au temple. Vous imaginez, au temple, fouetté tant de personnes. Vous savez, les pharisiens avaient leurs gardes armés. Eux-mêmes, ils étaient nombreux. Mais quand une seule personne qui fouette les gens, qui renverse le temple, personne ne le touche. Donc, pour les apôtres, il était intouchable. Et c'est vrai. Mais il fallait qu'ils se laissent faire. Maintenant, voir Jésus, non seulement attraper, on se dit, oh, il va s'en sortir. Juste crucifié. Juste mort. Mais on se dit, alors là, quel découragement. Quelle douleur, bien-aimé. Quelle souffrance. Mais Jésus leur dit, mais tout ça, c'était écrit. Tout ça, c'était écrit. Mais on a aussi dit que le troisième jour, il va ressusciter. Alors, bien-aimé, c'est ce que je nous dis aujourd'hui. Les souffrances, les difficultés, les tribulations, mais tout ça, c'est écrit. Relisons la parole, nous allons voir tout ça, c'est écrit. Que ce sont les conséquences du péché, qu'il y a aussi des épreuves que Dieu permet. Tout ça, c'est écrit. Mais il y a aussi une fin à tout ce qui est écrit. C'est écrit que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. C'est écrit tout ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le malheur, maladie, mauvaise annonce, difficulté dans la famille, tout, c'est écrit. Mais il y a aussi dans cette écriture-là la fin. Et la fin est bonne. Je me souviens d'un pasteur qui avait fait un songe. Il était comme dans une équipe. Je vais faire le parallèle parce que c'était un Américain. Le songe était le baseball. Je vais faire le parallèle avec le foot. Eh bien, leur équipe, c'était l'équipe des chrétiens. Et l'autre équipe, c'était l'équipe de faux serviteurs, des serviteurs du diable. Le match à peine commencé, ils étaient déjà menés 5-0. Et puis, le songe s'arrête. Il se réveille. Et puis le stade était rempli. Il dit, mais comment nous, les enfants de Dieu, nous perdons comme ça? Et puis il a posé la question au Seigneur. Mais la fin du match, c'était quoi? Le Seigneur lui a dit, la fin se trouve dans la Bible. Dieu gagne toujours. La fin se trouve dans la Bible. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui se confie en Dieu ne sera point confus. La fin est dans la Bible. Confions-nous au Seigneur. Il y a des choses à lui confier aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons te confier ce qui cause de la douleur dans nos cœurs, ce qui cause du souci dans notre âme. Tu viens de nous dire que la fin se trouve dans ta parole.
Merci Seigneur de nous encourager et de nous aider à avoir une autre image des souffrances. Tu ne nous condamnes pas lorsque nous pleurons, parce que tu as dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais que nous ne demeurions pas dans les pleurs, parce que la fin nous est favorable. Et puisque nous savons que la fin nous est favorable, aide-nous, Seigneur, à reprendre vie à travers la prière. Prier, te parler, plaider notre cause. Ainsi, nous verrons les choses s'accomplir. Car tu as dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Mais quand nous sommes face à ces situations difficiles, ou quand nous les expérimentons nous-mêmes, après les pleurs, Seigneur, aide-nous à refaire surface par la prière et à réclamer l'accomplissement des promesses. Et nous croyons que nous le verrons s'accomplir. Soutiens-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée.